êtres humains qui, après nous, vivaient. N'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop.
Eh ben, au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, c'est la radio de la Fédération anarchiste et Urbi. Comme Urbi, ça n'a pas changé, sans sponsor ni publicité. Alors, pour vos cartes d'auditeurs, vos cartes de soutien, une seule adresse, Librairie du Monde Libertaire, 145 rue Allot, dans le 11e arrondissement. On est bien sur Onde de Choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de M. Étienne Ruot, pour le Père Lachaise surréaliste.
Oui.
C'est aux éditions Complicité,
tout
c'est
à fait, oui.
C'est les anciennes éditions Unicité.
Ah non, 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 rien à voir. Rien à voir. Elles ont été fondées en 1991, donc d'accord, quasiment 20 ans avant.
D'accord.
Et non, il n'y a pas de lien.
D'accord. Voilà. Vous saviez qu'Unicité, c'était un sigle du parti cinématographique du Parti communiste dans les années 30 ou pas?
Non, je ne le savais pas.
Je vous l'apprends, monsieur.
Mon grand-père était au Parti communiste, mais je ne l'ai pas connu.
Je n'ai pas connu votre grand-père non plus.
Ah, mais ça tombe bien.
Monsieur Jacques, oui, malheureusement, vous êtes
du Parti communiste.
Vous avez participé au Père Lachaise surréaliste?
Non, pas du tout.
Et avec, si, mais c'est le gros problème que j'ai avec vous. Après, je vais faire les présentations, j'ai un gros problème avec vous.
Hein. C'est réciproque.
Joseph, qui m'a fait la surprise de venir, voilà, en me disant je dis rien, etc. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de pouvoir parler. Et puis, alors là, nous avons la diva des divas. Hein. Odile Cohen-Abbas, c'est un plaisir, Odile, vous le savez bien. Avant qu'on commence, on va commencer par Raoul Vanhagen, bien sûr, on peut pas faire autrement. Vous connaissez tous Monique en cabine, hein?
Non plus.
Si, Monique, tu veux pas la connaître tellement elle t'a fait peur, c'est pour ça. Je me suis demandé, monsieur Jacques Coda.
Oui, mon ami.
Qu'est-ce que vous foutez avec quels sont
vos rapports japonais
avec le surréalisme ou les surréalistes? Alors, si c'est votre
pourquoi
opportunisme, votre,
oui,
avec le surréalisme,
non,
votre
c'est ça. Je suis une vraie.
Laissez-moi finir.
Je suis une crapule salienne.
Dites-moi la vérité. Est-ce que c'est vous qui avez repeint au cimetière Montmartre les seins de Dalida?
Bah bien sûr, tu sais
de quelle couleur?
Je sais plus, j'étais ivre mort ce jour-là. Mais tu sais que Dalida était un individu qui s'appelait le comte de Saint-Germain et c'est qui est ma vraie identité, je suis né Saint-Germain.
J'y ai
donc,
pensé.
Tu y as pensé?
J'y
donc
pensé,
c'est comme ça que c'est pour ça que tu m'accuses.
Donc c'est vous. Étienne Ruot.
Oui.
Vous connaissez la statue de
oui, je suis au courant de cette fameuse histoire de saint qui
c'est la mairie de Paris, hein, c'est la mairie de Paris
oui,
qui s'est
vous
dénoncée.
Vous avez pas vu la photo?
Si, j'ai vu.
Quelle couleur c'était?
Bah c'était
C'était usé,
quoi. Ouais. C'est-à-dire, à la base, la statue est noire, et là, ça avait déteint, donc c'était... Métal, quoi, enfin couleur métal.
Elle est jolie,
quoi.
Cette Dalida. Bah, oui, Dalida était toujours très belle, hein, Dalida. Hein, oui, franchement, oui, vous plaît bien, monsieur.
Moi, j'ai bien connu.
D'accord, vous êtes bien connu. Dalida. Bon, voilà, non, c'est, je suis rassuré, j'ai compris vos rapports au surréalisme. D'accord. Okay. Alors, il y a eu deux événements qui se sont passés là. C'est que bon, la revue Intoto numéro 8, sur laquelle j'ai fait une émission il y a un mois sans la revue, bon, alors, c'est pas facile, hein, c'est comme ça, est sortie, avec plein de bonnes choses d'ailleurs. Parmi ces bonnes choses, ma chère Odile Cohen-Abbas, on s'est mis à plusieurs pour répondre par rapport à ce qu'on appelle le surréalisme éternel, qui nous apparaît absolument, à mes yeux, complètement absurde et antinomiste par rapport au surréalisme. Donc, non, vous, pas encore. Donc, oui, je vous donne la parole après. Donc, ça vient de sortir. J'ai qu'un seul exemplaire, donc je vous lance. C'est pas la peine d'essayer de me soudoyer. Et on se verra le 26 septembre, à la Saint-Pierre, pour fêter tout ça.
D'accord.
Dites, Cohen-Abbas, voulez-vous me dire quoi ?
À propos de cette question à l'éternel, oui, du surréalisme éternel ou non éternel, on réfléchit un peu à tout ça à force et on se demande qu'est-ce que c'est que ces fausses querelles qui s'élèvent. Parce que finalement, si on réfléchit bien, c'est pas tant que le surréalisme soit éternel ou pas, il est évident que c'est un événement historique, quoique encore, on peut aussi s'élever, être au-delà du temps et au-delà de l'histoire, mais c'est surtout que le surréalisme véhicule des valeurs qui sont éternelles et qui n'ont permis des gens comme vous, moi, de nous légitimer. Mmh. Et donc, non seulement c'est une reconnaissance, mais le fait de continuer d'écrire, d'être encore ces poètes qui sont investis justement de cette liberté dont on a hérité, fait qu'on les remercie.
C'est ce qu'on appelle une pirouette.
On aurait été autrement... Non, c'est pas une pirouette.
Attendez, on va continuer, parce qu'on a beaucoup de travail, on est là pour le livre du Père Lachaise.
On a posé.
Et surréaliste. Et puis là, il y a un événement qui s'est passé, c'est que Raoul Van Eggen est mort à Barcelone, monsieur Rueau, je tiens à vous le dire. Oui. Il est mort à Barcelone, 92 ans. Ça dit quelque chose à quelqu'un, Raoul Van Eggen, ou pas ?
Un peu, mais honnêtement, alors je sais qu'il a commencé avec les situationnistes, il me semble, et que c'était une sorte de libertaire. Voilà. Et donc, à la fin de sa vie, il était opposé aux lois, y compris d'ailleurs à la loi Guesso. Ça avait fait un peu de bruit parce que ça avait choqué, au nom d'un esprit de liberté. Voilà. Donc,
Oui, moi, c'est Monsieur Cohen-Abbas, vous qui avez fréquenté les situationnistes,
non ? Oui, j'étais dans le sillage de Guy Debord, qui ne sortait pas très bon, d'ailleurs. Mmh. Et oui, je l'ai beaucoup côtoyé. Je veux dire, livresquement, je ne le connaissais pas. Mais oui, bien sûr que ça me dit beaucoup de choses. Et l'éloge de la paresse et d'autres cochonneries de ce genre.
L'éloge de la paresse, c'est Paul Lafarge.
C'est Paul Lafarge, t'as raison.
Le traité de savoir-vivre à l'usage des générations, ou alors le livre des plaisirs.
Je savais que je disais
le livre des plaisirs. Non, mais pour revenir à quelque chose par rapport à Debord, il y a une crispation chez Debord qui ne serait pas très, très bon, mais il y a un côté libertaire, un côté joyeux, un côté hédoniste chez Van Eggen. Il se trouve que...
Il n'y a pas chez Debord.
Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai raconté à Monique avant l'émission, là, je savais que dans mon bordel qui me sert de bibliothèque, j'avais un livre, comme ça je ne savais pas où il était. J'envoie un dépassé, je tire, le livre me tombe sur la tête. Et c'est donc Histoire désinvolte du surréalisme de Raoul Van Eggen, qu'il avait à l'époque signé Jules-François Dupuis. Parce que Jules-François Dupuis, c'est le concierge qui a de l'immeuble où habitait Lautréamont. Et c'est lui qui a signé l'avis de décès de l'autre
homme. Vraiment, d'accord.
Alors, donc c'est un livre très vivant.
En toute certitude, parce que le décès de l'autre amant, il y a un grand point d'interrogation.
Oui, encore plus un grand point d'interrogation, parce que je crois qu'il y a un escroc dans ce livre-là, Père Lachaise du surréaliste, qui a mis un portrait de l'autre amant. On ne sait pas où est l'autre amant.
Non, alors si, on sait où il est. Il a été inhumé dans une concession temporaire, donc au cimetière Montmartre, où se trouvent d'ailleurs les frères Goncourt et le personnage de la servante de Germinie Lacerteux, mais ça c'est autre chose. Et donc c'est une concession temporaire, donc son corps a été déplacé par la suite vers une fosse commune, et il y a eu une extension de l'hôpital Beaujon, Donc c'est-à-dire qu'une partie de l'hôpital Beaujon a mangé le cimetière, donc le corps de Lautréamont se trouve dans une fosse commune qui est sous l'hôpital. Autant dire qu'on le retrouvera jamais, en fait. Techniquement, c'est impossible. Donc on sait où il est. Mais voilà, puisqu'il est mort dans une misère totale, et c'était la commune de Paris.
C'est un peu l'histoire de Victor Noir, ce beau jeune homme qui pose en état de turgescence au Père Lachaise. Plus tard, on s'est rendu compte que c'était un petit bonhomme tout joufflu et pas très érotique. Et en plus de ça, sa tête n'est peut-être pas la bonne tête. En plus de ça, il y a eu une histoire par
Alors,
rapport à ça.
Alors, c'est Jean-Jacques Lefrère qui a cherché dans les années 70, donc un siècle après la mort de Lautréamont, qui voulait à tout prix connaître le visage de Lautréamont. C'était obsessionnel chez lui. Que Suralis l'avait dépeint comme un être échevelé, etc. Et on s'est rendu compte que c'était un bourgeois de l'époque tout à fait conventionnel. D'ailleurs, il est mort très jeune, hein, il a 24 ans. Donc il a réussi, à force de travail, à retrouver un grenier avec... Donc il en a parlé.
Voilà. Donc ce livre, Histoire des Involtes du Suralis, qui a été réédité aux éditions Libertalia sous le nom de Raoul Van Hagen, effectivement... S'il était là, je serais d'accord avec lui. C'est une façon de dire que le surréalisme n'a rien à voir avec la mystique. Et qui s'est fait avoir par le monde de l'art très rapidement, et que tout ça a été compris au départ. Voilà. Donc, ça, je vous le conseille, Histoire des Involtes du Surréalisme, et comme Monique pense à tout, avant qu'on arrive au Père Lachaise surréaliste, on va écouter une chanson, Monique. Hein ? C'est quoi ? Mettez votre micro, s'il vous plaît, ça me fera plaisir.
Oui, La vie s'écoule, une chanson écrite par Raoul Van Hagen et qui là est interprétée par Serge Girouillo.
La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui, partie des rouges, partie des gris. Nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris. Nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie. Le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus. La jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés. Sans rêve et sans réalité, aux images, nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Brûler repères de curés, ni de marchands et de policiers. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Au vent qui sème la tempête, se récoltent les jours de fête. Les fusils sur nous dirigés, contre les chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État, pour profiter de nos combats. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahies. Partie des rouges, partie des gris, nos révolutions sont trahis.
Et merci Monique au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, avec Étienne Ruault, le Père Lachaise surréaliste. Qui c'est qui a trouvé ce titre ?
C'est moi-même, c'est-à-dire j'ai hésité longtemps. J'avais peur, en fait, que le titre, les gens se disent un truc sur le Père Lachaise fantaisiste. Donc, j'avais pensé le Père Lachaise des surréalistes avec André Breton au Père Lachaise, puis ça me paraissait trop long. Donc, j'ai décidé de raccourcir, d'aller au plus simple.
Monsieur Codard, on va faire... Je crois que vous connaissez un peu la rue de Bagnolet.
Oui.
Vous aussi, monsieur Joseph. On remonte la rue de Bagnolet vers Bagnolet.
D'accord.
À main gauche... Il y a une la rue de la Réunion. Est-ce que vous appelez, vous, vous allez me dire pourquoi, la porte de l'enfer?
Je ne sais pas.
Vous n'avez pas cette porte de l'enfer? Il y a la rue de la Réunion et puis il y a une petite entrée.
La rue de la Réunion. Ah, la porte de l'enfer de Rodin. Oui, d'accord. Je vois très bien.
Ça. Alors, donc, on prend l'escalier, on monte, oui. On tourne à main droite,
oui.
On marche un peu vers le mur des fédérés.
Oui,
vous voyez là?
Oui, très bien.
Et on tombe
même
sur...
la porte de l'enfer, ça y est, ça revient.
Et on tombe sur le carré politique.
Oui, il y a un tas de... Il y a Palais Lehard.
Voilà, c'est le carré... Alors, il y a toute la statuaire de la déportation qui, pour moi, qui n'est pas très réussie, quoi. Et on tombe sur les gens de la Moille, sur Manoukian, etc., sur le colonel Fabien, et là, sur ce...
Je crois qu'il y a Thorez aussi.
Voilà, il y a Thorez, Duclos, Valdecrochet...
Ah, les meilleurs.
J'en ai oublié un, Georges Marchais, qui a été mis après. Et au milieu, il y a deux tombes intéressantes.
Ouais.
C'est à vous de le savoir, monsieur Ruot. Il y a Paul Éluard.
Oui.
Vous ne la voyez pas?
Alors, il y a un ennemi du surréalisme, mais donc ça ne rentre pas en ligne de compte, j'imagine.
Qui?
Ben, Barbus.
Il y a Barbus, il y a Paul Éluard, il y a Duclos qui est un homophobe invétéré, ça on ne peut pas l'enlever.
Breton
voilà.
Aussi, enfin.
Et on va y revenir, ouais. Ben, c'est très bien. Et il y a une tombe qui est une tombe mensongère, entre guillemets.
Ah, comme, c'est le communard
voilà,
oui, si
c'est Adrien Lejeune. Mort dans une ville inconnue, dans une ville du RSS, en 42, je crois,
oui.
Et c'est le dernier des communards.
Et c'est une supercherie.
Supercherie.
D'accord. Je me suis posé la question.
Oui, c'est comment on utilise une tombe, comment le Parti communiste a annexé...
Oui, c'est avec ça,
bien sûr.
Parce que tu parles de Duclos. Duclos était chargé de zigouiller des mecs qui étaient dissidents pendant la Résistance.
Ouais.
Il a eu un rôle épouvantable.
Oui, c'est pire que ce que tu crois, en fait.
J'ai lu des choses à toi.
Non, c'est pire que ce que tu crois. Ouais. C'est lui qui a monté le groupe chargé de buter des dissidents et des collabos, enfin des gens qui étaient passés chez Doriot. Et après, ces gens-là ont été déportés, donc... En tant que résistant dans des camps de concentration, notamment à Mauthausen, le peu qui est revenu, parce que il les a virés du Parti communiste une fois qu'ils sont revenus.
Et c'est lui qui a négocié la réédition, la republication de l'Humanité avec les Allemands.
Absolument.
Oui.
Il s'est pas fait.
C'est groupe Valmy.
Et lorsqu'il y a eu les premiers mouvements du phare, c'était à Montreuil, je crois. Il a déclaré chez nous au parti, il n'y a que des gens normaux.
D'accord.
C'est un garçon très, très sympathique.
C'était l'ambiance vin rouge et virilisme, comme on dit aujourd'hui, du Parti
communiste.
Donc,
ce qui est intéressant, puisqu'en fin de compte, si on regarde Père Lachaise surréaliste, on pourrait quasiment recréer une histoire du surréalisme.
Mais il y aurait, en tout cas, il n'y a pas toutes les figures, il y a une partie des figures, c'est-à-dire il y a quelques figures vraiment connues comme Éluard, mais en fait, la plupart des figures... majeur, notamment André Breton, est enterré au cimetière des Batignolles.
Mais ce qui est intéressant avec Éluard, on peut se demander comment quelqu'un qui part du surréalisme va devenir stalinien aussi rapidement. Il n'est pas le seul. Il y a
Aragon aussi.
Aragon, mais dans ce livre-là, Histoire des involts du surréalisme, Van Eggen rappelle ce qu'on appelle l'affaire Calandra. Ça vous inspire?
Oui, Éluard a refusé de le défendre.
Oui, oui.
Donc c'était un communiste tchèque, enfin un militant.
C'est deux copains dans les années 30 qui est Breton et
voilà.
Éluard.
En fait, Breton et Calandra s'étaient rencontrés à Prague.
Avec Éluard,
tout à fait, en voyage à Prague, puisqu'il y avait un groupe surréaliste pragois, dont beaucoup de membres d'ailleurs sont venus en France par la suite, comme Toyen ou Heinrich Eisler, qui est mort de façon tragique, très jeune d'ailleurs. Et Zavis Calandra était accusé par le gouvernement tchèque, donc par le gouvernement communiste tchèque, de déviation trotskiste ou de déviation bourgeoise, je ne sais plus.
Et de mise en péril de l'État aussi.
Voilà. Enfin, Breton a demandé à Paul Éluard de défendre Calandra,
Ils étaient déjà en froid, Éluard et Breton, à ce moment-là. Donc il prend sur lui.
Oui, mais c'est une grande manifestation qui se fait avec Einstein, Camus, etc. C'est un truc énorme, l'histoire Calandra.
Alors Éluard a refusé. Alors ça n'aurait peut-être rien changé, je veux dire Calandra aurait peut-être été pendu quand même, je veux dire ça, mais il n'a pas eu le geste de, effectivement de signer une pétition ou de protester officiellement. Sa voix aurait pu porter un peu parce qu'il avait une place importante au sein du PCF, il a refusé de le faire. Donc évidemment, c'est condamnable. Enfin c'est
c'est crapuleux, on peut dire.
Oui, c'est crapuleux.
Mais la question est posée quand même, aussi bon pour Roger Vaillant et le Grand Jeu, comment on est dans le Grand Jeu, comment on se retrouve stalinien Aragon, etc.
C'est compliqué. Les communistes serbes, par exemple, beaucoup après ont rejoint aussi, sont devenus un peu des apparatchiks. Mmh. Donc c'est tout à fait possible. Enfin, je veux dire, il y a des évolutions individuelles, personnelles. Je dis pas que ça soit bien, mais c'est déjà arrivé. Donc je pense qu'Éluard avait une ambition très très forte, j'imagine. Et à un moment donné, il s'est plus ou moins fourvoyé. Enfin, je pense que c'est ça. C'était devenu une sorte de ponte.
Monsieur Codage, il y a un personnage. Il n'y a pas beaucoup de femmes, ça m'a étonné de vous.
Non, je suis misogyne.
Je sais, c'est même pire que ça. J'ai l'impression que ça avait un gros problème actuellement.
Et homosexuel.
Mais vous avez fait. Il y a deux portraits de femmes dans.
Je crois qu'il y a Musidora et la dame du monsieur dont vous parlez, là, monsieur Éluard.
Nouche, vous dites Nouche, c'est ça?
Nouche.
Alors, est-ce quelqu'un qui vous inspire, je suppose, non?
Oui, elle était assez inspirante. Je ne suis pas le seul à avoir été inspiré par Nouche. Parce que je crois que Paul Éluard l'a promenée en laisse assez déshabillée.
Oui.
Pour la proposer à des collègues. Donc, elle inspirait beaucoup de gens, oui.
Michel Fardoulis Lagrange, qui était pendant la guerre à Vézelay avec Bataille et Éluard, lui raconte, et ça c'est à 150%, que pendant qu'il jouait de la trompette, Éluard, elle se promenait à quatre pattes en faisant le chien, quoi. Oui. Donc c'est quelque
c'est
chose.
Ça, c'est ça, c'est cette scène à laquelle je fais une...
C'est ça, c'est celle-là, mais ça c'est connu. Mais ça c'est toute la moralité du Parti communiste, qui a caché qu'Aragon avait des relations avec les garçons, avec les gitons. Ouais. Puis après, les relations, on a sanctifié Éluard en disant que ça a été le poète courtois par excellence, etc.
J'écris ton nom, Liberté.
Non, je suis complètement d'accord. Mais sur Aragon, il faut lire l'autobiographie de Jacques Henrich. Il raconte des choses troublantes sur Aragon, qui avait fait scandale à l'époque, qui se baladait avec des photos de soldats nus, enfin allemands, sur lui, genre de choses. Oui, évidemment, il avait... Mais comme c'était tabou à l'époque au sein du PCF, l'homosexualité était complètement... Il faut voir ce qu'en dit Jean Rista, qui était le secrétaire très particulier d'Aragon.
Paraît-il qu'il n'a jamais couché avec Aragon.
Paraît-il. Hein.
Ah, ça,
je tiens à vous le dire.
Non, c'est possible.
Nous sommes sur France Dimanche. Mais pendant que nous y sommes, c'est là que nous avons un petit désaccord. On va se dire le petit désaccord pour commencer. Je l'ai pas là, mais vous l'avez en mémoire. Vous dites, vous accordez pas à Prévert d'avoir été surréaliste. Prévert, faut pas l'oublier, il est quand même du groupe de la rue du Château avec Tanguy et avec Marcel Duhamel, et de surcroît, il est un de ceux qui a participé à la grande enquête du surréaliste sur la sexualité, et que contrairement à Breton, qui a tenu des propos homophobes, c'est pas du tout à sa gloire, avec Queneau et Prévert, eux, ils ont rien à foutre de ça, et pour...
Vous trouvez, je sais pas si on se tutoie...
Si, vous voyez, non, moi, parce que le succès m'a pas grisé, mais d'accord. Allez-y, je vous en prie.
Ouais, vous trouvez que je l'ai un peu expédié en disant qu'il était pas vraiment... Ouais, j'entends, mais parce que je pense que là, c'est vrai que c'est peut-être une erreur. Je pense que la voie qu'il a choisie par la suite était quand même éloignée finalement du surréalisme.
Oui, mais on est forcé. Oui. C'est pas parce qu'Arago a fini apparatchik qu'il a pas été surréaliste.
Évidemment.
Et puis très intéressant, mais je dis ça parce que Monique, ça va vraiment l'intéresser. Il y a donc et puis on fera un peu de musique après. Il y a cette enquête sur la sexualité, et Prévert, on lui demande quelle position il préfère, et Prévert dit à la paresseuse. Ah. Vous nous envoyez... Alors, écoutez bien ce qui va suivre, ça va vous intéresser, c'est Bouloudji Cache-Cache. C'est l'histoire d'un petit... C'est peut-être vous qui l'avez écrit, d'un petit garçon qui joue à cache-cache et qui trouve refuge sous la jupe d'une dame.
Ah,
c'est joli. Ça vous plaît bien, ça? Alors, c'est très court, et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça.
D'accord.
C'est Léo Ferret qui a fait la musique, très belle. Merci, d'accord. Monique.
Un jour, quand j'étais petit, on jouait à cache-cache avec des camarades. Ça se passait dans une cour et
je ne savais absolument pas où aller, j'étais affolé, j'avais vraiment employé toutes les cachettes et j'étais là à courir éperdu. Et puis alors, il y avait des dames qui tricotaient, il y avait énormément de tricoteuses dans cette cour, et elle me dit, il y en a une qui se lève et qui me dit, viens ici petit. Puis elle soulève sa jupe, elle écarte les jambes et elle me dit, allez, cache-toi là-dessous. Et hop, elle m'embastille. Oh, moi j'étais là-dessus, je me demandais ce qui m'arrivait. Et puis j'étais affolé quand même. Et puis c'était curieux. Enfin, c'était la première fois que c'est une chose pareille me menait. Et ça m'a laissé une impression formidable. Et alors, 20 ans après, bien, je m'en suis souvenu. Et je me suis rappelé de ce jeu de cache-cache. Vous êtes-vous caché un jour de cache-cache sous la jupe lâche, quoique intimidé dans l'intimité d'une dame ombrelle, aux senteurs si blêmes, stridentes de douceur, l'avez-vous rêvé? Ce doux goût de peur, couleur de péché, était-ce inventé? Sous la jupe folle, vous flairiez la chair de dame prison. Elle, dans son émoi, ouvrait de plus belle ses ciseaux femelles. En prison de joie, vous étiez ému sous la chair ombrelle. Un soleil diffus éclairait tout bas la tendre Bastille. Vous les yeux béats, la tête levée au ciel, albinos. Vous suiviez le vol d'un corbeau velu entre chair et rose, des cuisses joufflues et du pantalon comme un rêve glauque.
Oui, alors pourquoi j'ai choisi là, c'est Mouloudji. Mouloudji a sa tombe. Oui. Alors, qui c'est Mouloudji? C'est un petit garçon. Le père est kabyle, il picole pas mal. La mère est hystérique, elle est bretonne. Et il est recueilli justement par les gens de la rue du Château, par Marcel Duhamel. Par Marcel Duhamel, par Prévert, etc. Là. Et il a sa tombe, je ne sais pas si tu la connais, sa tombe à un moment donné, là. Effectivement, il s'est baladé dans le monde de Robert Desnos. Il s'est baladé dans le monde de Yuki Desnos. Comme ça, et comme il est beau comme un dieu, il y arrive, comme il chante comme un dieu, il y arrive aussi, là, comme ça. Étrange destin. Et c'est très drôle, parce que quand on passe là-bas, il y a toujours quelqu'un, périodiquement, qui vient mettre un coquelicot sur sa tombe.
Mmh. Voilà. Un petit coquelicot.
Et bien sûr. Et c'est très, la vie, c'est très parlant, parce qu'on parlait des tombes du Parti communiste, et juste à côté, il y a une espèce de tombe horrible, c'est celle de Gilbert Bécaud. Boum! Boum, le truc sans grâce. Et juste à côté de la tombe, c'est le style, et ça, c'est pas très moral, d'ailleurs, c'est pas très beau. Il y a la tombe de Marie Trintignant, oui, qui est enterrée avec son beau-père, et non pas avec Jean-Louis, alors Jean-Louis n'est pas content. Mais... Et qu'est-ce qu'il y a sur la tombe? Une phrase de Percy Shelley. Mmh. Eh oui, c'est le style.
D'accord, je ne savais pas.
Vous avez trouvé des tombes, alors, parce que là, c'est le Père Lachaise, vous trouvez des tombes surréalistes, c'est-à-dire des choses qui seraient baroques, des choses qui seraient...
Au Père Lachaise, alors, il y a la tombe de Beaujour, Félix de Beaujour, qui est la plus haute de Paris, d'ailleurs.
C'est un phallus.
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, à l'intérieur, il y a une chambre spéciale, c'est un mégalomane total, qui était vaguement homme de lettres, qui était surtout extrêmement riche, qui a joué un rôle sous l'Empire. Et en fait, normalement, les rayons du soleil sont censés passer à travers l'espèce de grille qui est en haut, donc du phallus, effectivement, et éclairer l'intérieur où il y aurait des fraises. Donc les gens pouvaient s'asseoir à l'intérieur. Et d'après la rumeur, la tombe communique avec la tombe de sa maîtresse qui est juste à côté, et les gens organisaient des parties fines au sein même de la tombe. Donc il y avait un côté, justement, Georges Bataille, quoi, la fin du bleu du ciel, quand ils ont un rapport dans une sépulture.
Bon, j'en étais.
Ouais. Pour une fois que vous compreniez quelque chose, M. Codard, ouais,
là, je reçois 5 sur 5.
Après, il y a des noms ridicules, il y a des gens qui ont des noms malgré eux, quoi.
Mais il y en a même une, ça, je l'ai perdu, c'est bien dommage, c'est gravé dans le marbre, où la personne est morte avant d'être née. Ah. C'est-à-dire que c'est marqué 1910 et puis elle est née en 1800. Et ça, c'est fabuleux. Non, mais je parlais par rapport au surréalisme.
Des tombes. Surréalisme. Il y a des citations parfois, des citations de Rimbaud. Il y a des tombes étranges, alors pas forcément au Père Lachaise, mais par exemple au cimetière des Batignolles, donc où est enterré Breton, à Dokirou, etc. Il y a une tombe cheval, on ne sait pas pourquoi un cheval en forme de cavalier, mais vraiment le cheval des échecs. La tombe de Raymond Roussel, à la base, il était prévu qu'il y ait autant de cases que dans le jeu d'échecs, je crois que c'est 32 cases. Hein. J'ai un ami qui est prof d'échecs, mais je ne suis pas très bon. Bon, finalement, il n'y en a qu'une, il n'y a que Roussel. D'ailleurs, il y a écrit famille Roussel, alors il n'y a que Raymond Roussel.
Cadet.
Voilà. Et il est enterré à côté d'un certain Canterelle, qui est aussi le héros des Impressions d'Afrique.
Impressions d'Afrique.
Donc il n'y a sans doute pas de hasard.
Il y a des belles épitaphes. Tout le monde connaît au Batignolles, celle de Breton, je cherche l'heure du temps.
C'est une déclaration alchimique d'ailleurs.
Benjamin Perret, je ne mange pas de ce pain-là.
Oui.
Celle de Jouffroy est d'une pauvreté, c'est pauvre. Vous l'avez, celle de Jouffroy?
Je ne l'ai pas, c'est une colonne brisée. Ça, je le sais. Enfin, c'est une base de colonne, parce qu'elle a été refaite récemment.
Ah bon, d'accord.
Mais je ne me rappelle plus de ce qui est indiqué.
Il y a une épitaphe sur l'éveil, sur le rêve et l'éveil. C'est d'une banalité affligeante. Voilà. On pourrait s'attendre. Jimmy Gladiator, ça c'est la grande énigme de ma vie, qui a fini dans la religion musulmane, voulait qu'on mette sur sa tombe à côté de la plaque. Ça n'a pas été fait.
Et ben, ça a été fait réalisé.
Il a été vraiment à côté de la plaque. voilà. Je crois que c'est Henri Méchonique, c'est pas sûr, ça c'est pas garanti, il faut faire attention. Qui a marqué, on l'a foutu dans une tombe familiale, ça arrive, on ne sait pas foutre les gens, on les met quelque part. Et, ce serait marqué la vie d'une tartine de merde. Oui, c'est dur. C'est dur, hein?
Non, parfois, il y a une tombe, c'est Chute, nous reposons.
Oui, j'ai vu ça, oui.
C'est
oui.
Un couple. Vous pouvez passer quand vous voulez, je ne bouge pas. Parfois, il y a des petites phrases un peu rigolotes.
Qui est bien, nous ne sommes pas déçus, nous reviendrons. On n'est pas déçus d'être venus. Ça, c'est très beau, ça.
Il y a des énigmes, parfois. Il y a la tombe d'un grec, alors c'est pas un surréaliste, un communiste grec qui enterre au cimetière de Pantin, qui est le plus vaste d'Europe. Alors, ça fait 4 ou 5 fois le Père Lachaise. C'est immense, en plein 9-3. Et il y a une énigme, moi j'ai essayé de la résoudre, avec des symboles. Il n'y a pas de croix, donc j'ai retrouvé l'ancienne maîtresse de cet homme-là, qui avait une sœur jumelle, qui est morte très âgée, et il y a une énigme. Mais ça a sans doute un sens érotique, c'est ça plus ça égale infini, plus ça égale infini. Il y a des choses comme ça énigmatiques qu'on peut pas...
Le sculpteur Armand avait marqué, c'est assez vache pour ses contemporains, il a marqué « enfin seul ».
Ah oui, oui.
« Enfin seul ». Oui, mais... Donc, tout ça se passe au Père Lachaise.
Oui.
Et tu as débordé, c'est-à-dire, tu as été voir les cimetières de. Ah, petite parenthèse, oui. Tu as été à Montparnasse.
Oui, oui, tout à fait.
Mais ces visites, tu as fait des recherches sur écran ou dans les livres.
Oui.
Mais il y a quand même des tombes que tu as été voir.
Oui, bah oui, évidemment.
Tu as déjà été au Père Lachaise.
Bah oui, non, mais même dans les cimetières de banlieue, le cimetière de Thiers qui est extrêmement triste.
Ça, on va en parler. Ouais, ouais. Il est triste. Oui. Ça, bon, on ne peut pas dire le contraire. Mais à Montparnasse, il y a bien sûr la tombe de Robert Desnos.
Oui.
Et tu indiques dans ton livre, à chaque fois, il y a une croix chrétienne, il y a un signe musulman, un truc comme ça. Mais Robert Desnos, c'est Louise de Harme qui a rapporté
les cendres, oui.
Vas-y, tu as l'histoire.
Il est mort, en fait, après la libération du camp de Térésine, qui se trouve à Theresienstadt, qui se trouve en actuelle République tchèque, qui était un camp de concentration, enfin, qui n'était pas un camp d'extermination, mais enfin, bon, il y avait un taux de mortalité très élevé, du typhus. Et donc, pas de chance.
Un mois après la libération.
Voilà. C'est ça, oui. On était très épuisés physiquement, d'ailleurs, une photo de lui. Donc, on a récupéré les cendres. Alors, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est comme si c'était après la libération. C'est tout à fait possible. Et Louise de Harme est allée les chercher à l'aéroport du Bourget.
C'est ça.
Et donc, je pense qu'il a été mis dans un caveau familial.
C'est pour ça qu'il y a une croix. Il y a
tout
une
à fait. Et que lui-même n'était pas croyant.
Hein. Ça fait longtemps que tu y as été ou pas?
Ça fait un petit moment.
Parce que sur sa tombe, il y a une bouée.
Ah si, non, mais ça, il y était déjà.
Et ça vient d'un poème qu'il a écrit quand il était tout jeune, en disant qu'il faut toujours avoir une bouée parce qu'on ne sait jamais.
Ah ben voilà, ça j'aurais pu le...
Oui, voilà, ça c'est parmi les choses. Tant qu'on y est, parmi les choses, il y a mon ami Michel Fardoulis Lagrange qui est signalé. Bon, il n'a rien à voir avec le grand jeu, je ne sais pas si...
Ah oui, une erreur.
Ça, non, ce n'est pas une erreur, il faut chercher. Là. Et puis, petit refus de ma part, mon ami Aline Gagnère.
Oui.
Il était une personne absolument extraordinaire. Il y a 20 lignes sur son mari, Pouget.
Oui.
André Pouget, là, qui n'a aucune forme d'importance. Et c'est elle, est-ce que c'est parce que c'est une femme, j'en sais rien.
Oh non.
C'est elle, c'est elle. Et même dans sa mort, on a été dit, alors c'était très beau, on a été balancer ses cendres à l'avant du Vergalant.
Oui, ça je savais, oui, ça
voilà.
Je l'ai su.
Voilà, donc voilà, c'est le genre de choses comme oui. Ça, si on recommence, il y a ça. Et puis, puisqu'on y est, là, effectivement, il y a Léo Mallet, personnage...
J'y viens. Il y a des personnages qui ont eu un moment un lien avec le surréalisme et qui après l'ont quitté. Bon, il y a Léo Mallet, puisque tu m'as signalé, mais je savais déjà quelles étaient les opinions à la fin de sa vie. Bon, voilà, il s'en cachait pas d'ailleurs. C'est pareil, évidemment. Bon, Drieu La Rochelle, je l'ai cité parce qu'il a eu un lien avec Breton, mais évidemment qu'il s'est complètement séparé du surréalisme à un moment donné. Mais on ne peut pas le gommer. Et Mallet, c'est pareil, même si Mallet par la suite a fait des polars et des romans populaires et qu'il a évolué vers une autre forme d'idéologie, il a quand même eu à un moment donné un rôle avec le surréalisme.
Il faut le dire. Et ses poèmes surréalistes de 34 sont absolument magnifiques.
C'est comme le fils de Trotsky n'a aucun lien en soi avec le surréalisme, mais comme Breton a rencontré Trotsky, j'ai tenu à le citer. Lénine, c'est pareil. Lénine n'a aucun lien avec le surréalisme. C'est juste que c'est une figure indirecte.
L'histoire de Mallet est très belle. C'est un petit garçon de Montpellier qui est quasiment illettré, qui monte à Paris et qui livre des bidets. Il passe à la place de Clichy où il y a la première librairie de José Corti. Et qu'est-ce qu'il voit en vitrine? La révolution surréaliste. Il rentre, il achète ça. La révélation. La révélation, il se met à écrire ses poèmes. Il rentre à la main à plume, il écrit ses poèmes, il est Trotsky, etc. C'est absolument superbe. Après, il fait ses polars, etc. Et puis très rapidement, il va virer Franchouillard, raciste Franchouillard. Et c'est dégueulasse, parce que je ne devrais pas le dire, mais on va le dire. Je ne crois même pas que le bouquin se trouve, et puis il faut. Ça, etc. Alors, il est là, il est impuissant. Il est impuissant à écrire. Il est impuissant.
Il en parle dans son journal, oui.
Est impuissant aussi, là. Et alors, il raconte qu'il arrive à éjaculer sans bander. C'est une confidence.
Mais c'est son journal, hein. Je pense que.
C'est zéro.
Est-ce que c'était destiné à la publication
Ça a paru il n'y a pas longtemps, ça aussi.
Je crois dans les années 90, mais c'est comme Morand, je veux dire, son journal était publié après sa mort, il dit des choses qui sont quand même pas sur ses multiples relations féminines, y compris avec la femme de certains amis. Enfin, c'est moyen, je veux dire. Donc pour moi, c'est du journal intime, donc je pense qu'il se livrait complètement. Et est-ce que lui-même voulait que ça soit lu? Enfin, c'est la question qu'on
peut
poser.
C'est publié, c'est quand même publié de son vivant par un éditeur d'extrême droite. C'est pour ça que c'est un livre qu'on ne trouve plus, on doit retrouver sur Internet, je ne sais même plus comment ça s'appelle, et c'est dégueulasse.
Ah oui, si c'est de son vivant, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est encore un autre... parce que parfois, le journal n'était pas forcément destiné à la publication. Je pense au journal d'Amiel qui fait 17
pages. Tu trouves dans ses polars des phrases magnifiques du genre « Lorsqu'il y a du rasif dans l'air, l'arabe n'est pas loin », tu vois. C'est quand même une généralité un peu douteuse, quoi. C'est pas très joli.
Mais pour moi, après, c'est comme Rimbaud. Après ses 21 ans, il n'a plus lien avec la poésie. Et Léo Mallet n'a plus lien avec les surréalistes. À un moment donné, il y a une rupture qui est consommée et il fait autre chose. Je pense qu'il faut... Voilà, c'est... Mais comme beaucoup de gens qui sont passés par le surréalisme à un moment de leur vie, quoi, c'est...
Joseph, je suis sûr qu'il va de temps en temps au Père Lachaise dire bonjour à Unica et à... Oui,
c'est à côté, alors.
Ouais.
Et puis, rien que l'espace est quand même merveilleux. Donc, en passant, ben voilà, on va voir la tombe de belle-mère, bien sûr. Et puis, puisqu'on parle des phrases, donc il y a la fameuse phrase que belle-mère a marquée sur la tombe, « Mon amour te suivra dans l'éternité ». Donc voilà, ça fait partie qui est dans ton lit d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Il y a une autre personne dont tu es avec, tu sais qui c'est?
Et donc c'est le petit-fils de belle-mère.
D'accord.
Belle-mère avait deux filles jumelles en 43, et Dorian habite dans la banlieue parisienne. Et son fils est décédé, je crois, en 2005. Et donc, ils ont choisi de le mettre dans la tombe avec le grand-père. Mais, par hasard, je l'ai rencontré au cimetière. Et elle m'a expliqué qu'ils ont enlevé les corps pour les rétrécir.
Compressé.
Et pour pouvoir mettre, parce qu'il n'y avait pas de place.
D'accord.
Donc, ils ont rétréci les corps. Alors, est-ce que c'est que belle-mère ou est-ce que c'est qu'Unica? Et toujours est-il qu'ils ont jonglé sur les corps défunt pour mettre le petit-fils.
Mais moi, je refuse. Hein. Et donc, c'est gros que ça, le petit-fils.
C'est obèse.
Et donc,
c'est effrayant.
C'est une histoire de famille.
C'est une histoire macabre.
Pour revenir à l'intervention d'Odile tout à l'heure, là, oui. quand je mets un programme, je reçois forcément des gens qui m'envoient des choses, etc. Alors, c'est plus ou moins railleur, plus ou moins gentil, etc. Et il y a un jeune homme que je connais qui travaille dans l'ombre, qui est très 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 bien et qui m'a fait remarquer. Qui m'a fait remarquer que quand même, entre le surréalisme éternel et les cimetières, on est quand même loin de toute la fougue des jeunes hommes de 1924. Non, mais c'est comme ça, c'est la réaction, elle est comme ça. Elle est comme ça, j'y peux rien. Et je lui ai répondu qu'il n'y avait pas une plus belle promenade à faire que dans les cimetières, c'est là qu'on respire le mieux, il y a des chiens, il y a des veuves, il y a tout ça, c'est très beau. Mais c'est ça qui est exprimé, comment un jeune homme reçoit ça, il a 24-25 ans, comment il reçoit ça? Effectivement, il est initié au premier manifeste. Qu'est-ce que c'est que le premier manifeste? C'est Breton, qu'on peut faire tous les reproches qu'on voudra, il est très lucide, il comprend ce qui se passe. Il y a le rêve, il y a la marche, il y a les rencontres, il y a le hasard. Très rapidement, il comprend qu'on ne peut pas rester dans une tour d'ivoire. Qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer au Parti communiste, il fait de la politique, il a tort. Ça va pas marcher, bien sûr. Mais il sait qu'il se réclame du marxisme, c'est-à-dire qu'il est, matérialiste. Mmh. Et l'éternité n'est pas matérialiste. Mmh. Mmh. Et c'est là que ce jeune homme, c'est lui qui me l'a fait remarquer. Salut, camarade.
À la dimension historique, bien sûr que c'est très important de notifier tout ça. Mais en même temps, moi je dis aussi que si on prend le surréalisme à ses racines, on peut trouver une racine primitive, très très ancestrale, très archaïque. Et c'est pour ça que de toute façon, il était immortel avant même que de naître. Aujourd'hui, si on s'interroge, vous, moi, tiens, hein, sur pourquoi on écrit, on retrouve les mêmes valeurs.
Hein. José Pierre a fait l'univers surréaliste, et c'est un livre comme
c'est
ça.
C'est libérer les pulsions archaïques.
Il voit des surréalistes partout.
C'est pas que dans les cavernes.
Dans les cavernes, vous avez du surréalisme.
Voilà, exactement.
Bah, je suis d'accord.
Exactement. C'est pour ça que ça passe outre l'histoire.
Bien sûr, ça n'a rien à voir.
Ça saute par-dessus. Oui. C'est pour ça qu'on est encore vivant et qu'on a encore
envie de faire. Et la phrase
dès qu'on retrouve la pulsion archaïque en nous.
Ne touchez pas.
Autrement dit, la pulsion archaïque, je ne fais pas semblant. C'est-à-dire la liberté première.
Bon, je vais vous faire plaisir. Je vais vous raconter ma vie. Tout de suite. J'étais dans une. Après, on écouterait un peu de musique si Monique le veut bien. J'ai ramassé un livre merdique dans une boîte à livres. Comme ça, j'ai feuilleté. C'est illisible. C'est un livre de Georges Champrin. C'est très 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 mauvais sur les bandes d'extrême gauche. Et puis brusquement, il fait beaucoup de citations. Il fait beaucoup de citations. Et je dis qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le lire, après je vous dis ce que c'est. Enfin, c'est très très rapide. Hein. Les cris aigus des filles chatouillées, les yeux, les dents, les paupières mouillées, le sein charmant qui joue avec le feu, le sang qui brille aux lèvres qui se rendent, les derniers dons, les doigts qui les défendent, tout va sous terre et rentre dans le jeu.
Paul Valéry.
C'est magnifique.
Oui.
Magnifique. Alors là, voilà, magnifique, non? Je n'ai peut-être pas convaincu. Merci Monique.
Écoutez, habitants, gens de bien ou de rien, si nous venons à vous ravagés par les rides, nos voix sont éraillées d'avoir trop amusé, si nos yeux sont amers, c'est d'amour du métier. Nos oripeaux, nos âmes, nos femmes sont fatiguées. Jeunesse en est allée au long des mois de mai. Notre ours unique pelé, à la voix mal lavée, dans ses faits l'homme méchant, la roue les reins cassés. La chèvre en sabot d'or révélera votre âge, le nain fera le singe et le singe le sage. Vieilles bêtes sauvages quêteront au passage les sous-bouchées de pain qu'entre nous l'on partage. Écoutez, habitants, gens de bien ou de rien, ne nous prenez pas mal, on n'est pas des vauriens.
Nos tours et nos détours sont un peu fatigués. Vieux genoux peinent à porter des cœurs un peu trop lourds. Le cerceau enflammé nous roussit la figure. Épuisé, on trébuche dans les rires et la sueur. Écoutez, habitants, gens de bien ou de rien, derrière vos murs cachés, il nous faut bien manger.
Alors, je vais vous raconter une histoire, je tiens à vous le dire, avant cette émission avec Odile Cohen-Abbas, j'ai reçu 10 coups de téléphone. Tous les jours, j'avais mon coup de téléphone, je sais pas, je viens pas, on fait ça, etc. Et au départ, on avait un deal, je vais vous le dire, c'est qu'Odile, on avait un deal, c'est que c'était le témoin muet. Elle ne parlait pas. Je lui dis, ça m'arrange bien. Bon, Odile, que pensez-vous du livre d'Étienne Ruault, Le Père Lachaise surréaliste, aux éditions Complicité?
Alors, on a déjà évoqué beaucoup de choses, cette façon de rendre hommage à tous ces hommes, que je trouve que ça révèle bien le mouvement du surréalisme, avec ses contacts, ses rapprochements, ses éloignements. Ça crée tout un mouvement au sein des cimetières, comme ça, d'un cimetière à l'autre aussi, qui rend bien compte de la mouvance et du mouvement surréaliste. Je trouve ça vraiment formidable. Ça dit au plus vrai ce qu'a été le mouvement, avec ses points donc de contact et puis de rupture, etc., etc. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà des hommages qui seront dus à tous les hommes, c'est un hommage, enfin, c'est une évocation de la mort. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. On parle de la mort sans tabou, sans occultation aucune. À chaque instant, mais tu en parles. Mais vraiment, en toute liberté, tu la nommes, elle est là, elle est présente. Moi, j'ai dit, c'est le personnage principal. Tu parles de la mort. Alors que c'est un sujet encore plus ou moins évité, surtout dans la civilisation actuelle où on occulte tout ça, justement, la maladie, la mort, on ne veut pas en entendre parler, ça passe très vite avec les ambulances et le bruit des sirènes. Et là, tout d'un coup, tu te poses et tu te confrontes et tu nous confrontes à la mort. Et d'une façon naturelle, extraordinaire. Et pour moi, c'est un point fort du livre, ça. Elle est là. Tu me regardes étrangement.
Non, c'est que, en fait, après coup, j'y ai repensé dans la conclusion. Je me suis toujours demandé ce qu'André Breton, s'il est encore de ce monde, aurait pensé de ce projet. Et je pense qu'il l'aurait désapprouvé comme il désapprouve énormément de choses. Parce que, bon, c'était sans doute quelqu'un d'attachant, mais qui avait un caractère impossible. Enfin, qui est intransigeant, en fait. C'est une sorte de Robespierre, quoi. On ne peut pas lui reprocher.
Non, mais justement, certainement pas. Moi, je pense qu'il l'aurait approuvé à cause de cette manière que tu as justement de fouiller loin, de fouiller profond, de fouiller vrai.
Mais je pense. Alors.
De fouiller vrai. Mais il y a une authenticité en soi, il y a une unité dans ton être, dans ce que tu fais, ce que tu dis, ta façon d'être, dans ton rapport aux autres et ton écriture.
Je suis touché, mais.
C'est moi qui ai été touché.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que si tu veux, le problème du livre. C'est que justement, au sens strict, ça veut dire que le surréaliste serait un mouvement qui, quelque part, ça le pacifie un peu. C'est-à-dire que.
Mais non, pas du tout, tu extrais la mort de ça.
C'est exactement ce que j'ai dit,
Oui.
Petite parenthèse, est-ce que vous ne m'avez pas téléphoné, monsieur, il y a des années pour me demander de participer?
Oui, mais.
D'accord. Et pourquoi je vous ai refusé? À cause de ça.
Ah oui.
C'est très bien, on en est arrivé où j'en ai. J'ai dit non.
Pour l'instant, je vous laisse, je ne vous dis pas parler.
Je suis juste et bon, mais après on voit. Bon, et voilà, c'est pour ça. C'est pour ça.
Voilà. Alors, vas-y. Moi, je pense par rapport à ça que. Alors, Jean Schuster avait décrété la fin du surréalisme en 1969 avec José Pierre. Décision. D'ailleurs, la tombe de Jean Schuster n'existe plus. Enfin, il est enterré, mais c'est des ronces, quoi. Peu importe. Enfin, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est le cas de beaucoup de gens, d'ailleurs.
Il est au
cimetière de Pantin, mais tu verras rien parce que c'est des ronces, quoi.
D'accord.
Mais c'est pas le seul, José Corti, c'est pareil.
D'accord.
Mais. Jean Schuster avec José Pierre. Jean Schuster a donc décrété la mort du surréalisme. Décision qui a énormément divisé, sachant qu'il y avait déjà des divisions, parce que le surréalisme est constitué d'une multitude de chapelles, mais c'est pas le terme qui convient, puisque c'est un mouvement athée. Donc, c'est un débat qui a eu cours, c'est-à-dire qu'il y a encore un groupe surréaliste parisien. Ce qui est sûr, c'est qu'après 45, il y a peut-être une sorte de mini ringardisation de Breton qui a dû partir aux États-Unis. Il n'avait pas le choix.
Parfait, mais d'accord.
Et que quand il revient, c'est pour ça qu'il fait plus tellement de politique, parce qu'il s'est fait doubler par Éluard et Aragon, et qu'il se tourne plus ou moins vers l'occultisme, d'accord, vers d'autres thématiques.
Après, je donne que la parole, vous finissez l'émission. Après, je vous donne la parole. J'en ai pour deux secondes.
Le surréalisme est un mouvement athée.
Oui.
Ça, il n'y a aucun problème. Effectivement, le retour de Breton, après je vous donne la parole, le retour de Breton, et là je ne vais pas me faire des amis, je vais le faire exprès, vive la provocation, c'est Roger Vaillant qui a été un résistant, etc., sans aucun problème, qui revient, qu'attend que Breton revienne, il va écrire le surréalisme contre la Révolution. Et je m'excuse, Breton, qui est quelqu'un, fait cette connerie de donner son premier interview au Figaro, ce qui n'est pas très malin. Il donne son interview au Figaro. Le Figaro ne le loupe pas. Il met juste avant l'interview de Breton, il met la statue du maréchal Foch. Et là, Breton commence à raconter les poupées Hopki, etc., etc. Et Vaillant, qui est un pamphlet, on pense ce qu'on voudra, qui est un pamphlétaire, dit, pour arrêter, c'est quand même plus facile. Comment on arrête les chars nazis avec des poupées Hopki, hein. Il y a une phrase comme ça, il l'avait déjà fait avec Gilbert Lecomte. Hein.
Mais un règlement de compte.
Oui, bien sûr. Enfin, mais voilà, c'est Roger, voilà. Breton, après je finis, là, je donne la parole à Odile. Lorsque Schuster dit « Un jour viendra quelque chose qui sera le surréalisme et qui n'aura pas le nom du surréalisme », moi j'applaudis les deux mains. Parce que c'est là, ça va venir. Et voilà, c'est quand je vous parle de la poussière du surréalisme, c'est ça que je m'exprime. Maintenant, ma chère Odile, vous êtes là, vous avez un micro, vous pouvez parler.
Je fais juste une phrase à propos de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que justement, dans la mesure où tu rends à la mort son universalité, tu libères le surréalisme de la mort dans ton livre. Tu comprends ?
Oui,
elle est entité, elle est la mort. Donc tu libères le surréalisme. Elle nous concerne tous, elle est dans l'au-delà, dans l'origine et dans l'au-delà. Tu en fais quelque chose d'universel, ce qu'elle est, absolument. Donc tu libères après.
Ben Breton est mort depuis 60 ans. Là, cette année, ça fait 60 ans. Septembre, ça va faire 60 ans. Pour autant, son œuvre se maintient. Alors, il y a plus de groupe. Enfin, il y a toujours un groupe surréaliste, mais soyons honnêtes. Je veux dire, à un moment donné, là aussi, je vais peut-être pas que me faire des copains, mais on est loin.
Tant mieux.
Non, mais on est loin des années 20-30. Eux-mêmes en conviendront.
Heureusement, on serait des momies si on était dans les années 20-30.
Parce que le contexte,
on n'est pas des momies, on est des vivants.
Il y a une confusion, c'est-à-dire qu'on peut récupérer l'objet surréaliste. On peut faire un beau poème, mais j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas le mouvement.
Non,
c'est pas le mouvement, c'est ça.
Il y a un autre facteur, je pense, qui est sociologique.
Cette liberté qui est légitimée.
La société française, et tant mieux, n'est plus celle de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire, on s'en rend pas compte, mais déjà, on sort de 14-18, et ça, c'est un facteur déterminant dans le surréalisme. C'est-à-dire que tous ces jeunes gens ont plus ou moins été sur le front, donc ils ont vécu des trucs terribles. Éluard était dans les tranchées. Donc, Breton n'était pas en première ligne, mais enfin, il était à l'arrière, il soignait des soldats qui étaient rendus fous par la guerre, qui avaient un traumatisme de guerre. Aragon était brancardier à Verdun, donc il a dû voir des trucs absolument abominables, d'ailleurs il en parle. Donc il y avait une révolte initiale, et la société de l'époque était vraiment une société beaucoup plus dure, enfin je veux dire vraiment catholique et bourgeoise pour le coup, infiniment plus dure. Il faut savoir à chaque fois qu'il y avait une projection de film, il y avait systématiquement des camelots du roi qui venaient leur casser la gueule. C'est aujourd'hui, évidemment... voilà, le surréalisme est plus ou moins enseigné à la fac. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans ce registre clandestin, évidemment. Donc, il y a peut-être une perte de vigueur. Et Breton lui-même était physiquement violent quand il mettait des baffes à Jacques Baron. Il y avait une violence qui était sans doute héritière de la guerre et d'une autre époque.
La politisation du surréalisme, je sais qu'à Sarah Alexandrian, c'était pas tellement son chemin. Mais à exister, c'est-à-dire à exister, on peut pas le nier. Ils ont au départ est anticolonial, il le dit, anticolonial, anti-impérialiste. Aussi anti-impérialiste, anti-voilà. Ils vont quand même sortir que ça tourne très mal l'Europe, et l'association des écrivains et des artistes révolutionnaires, ça existe.
Oui, bien sûr.
Ça existe, et comme après j'ai fini. Et lorsque Schuster, justement, avec Mascolo, va être un des initiateurs du manifeste des 121 contre
la guerre d'Algérie.
Le droit à l'insoumission en Algérie, c'est complètement. On a un surréalisme qui devient légitime. Voilà, mademoiselle.
Ce que je veux dire simplement, c'est que ça rentre dans le surréalisme et le rêve, dit à propos du surréalisme, que ça a été un mouvement tellement capital, tellement fondamental, tellement important, qu'il est impossible qu'il ne se survive pas. Sarah Alexandrian. Il le dit, Sarah, c'est clair et net. Hein. et qu'on attend les livres.
Monsieur Jacques Coda, puisque vous êtes là, monsieur Jacques Coda.
Oui. Les valeurs.
Je vous écoute.
Vous avez écrit Fleur Belle, ils s'en foutent de ce que vous racontez. Non, c'est pas vrai. Vous avez écrit Fleur Belle.
C'est vrai.
D'accord, vous avez écrit Fleur Belle.
Pour une fois.
Donc, pour peut-être rappeler ce que c'est, Fleur Belle.
C'est un livre écrit sur Sade.
Oui, c'est-à-dire, c'est un chat.
Pardon ?
Oui, allez-y, allez-y, Fleur Belle.
C'est un livre écrit pendant le Covid, je me suis retrouvé en prison, donc, ouais. Comme beaucoup de gens.
D'accord.
Et donc je me suis identifié au marquis à la Bastille.
Mais qu'est-ce que c'est chez Sade exactement ?
De quoi ? Fleur Belle, c'est son dernier roman.
Voilà, c'est ça qu'il faut dire.
C'est ça que tu voulais savoir. C'est son dernier roman qui n'a jamais vu le jour, puisque son fils a fait brûler tous les écrits de son père par la préfecture. Donc il nous reste que quelques bribes. Et donc j'ai eu la prétention de les écrire, non pas à sa place, mais de prendre la suite. Voilà.
Et vous avez mis en exergue une très belle phrase, il n'y a pas de belle surface sans une profondeur effrayante. Nick. Et c'est ce à quoi j'ai pensé. Oh, oui, c'est bien Nietzsche, vous savez, vous devrez fréquenter Nietzsche.
C'est pas mal, oui.
Et c'est ce à quoi j'ai pensé
en regardant
le portrait de Nietzsche, justement.
De moustache,
voilà,
de
ce personnage qui était quand même une fille de la rue. Rio, ce que tu dis, hein.
Oui, Maria Benz, fille de circassien, plus ou moins paumée, ayant un peu recours à la prostitution occasionnelle. Voilà.
C'est les meilleurs.
Oui. Huard aimait bien la partager.
Quand on regarde ton portrait, il aimait bien aussi.
C'est ça.
C'est ça aussi. Hein.
Tu crois que j'en ai fait une
liberté.
Tu trouves pas c'est ça dans le portrait de.
C'est ça.
Cet aspect léger, mais en même temps, il y a quelque chose derrière qui est. Sur Elmer à 40 ans. Mais tu sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit, et c'est par rapport à tes portraits, là, que le portraitiste.
Oui.
Il saisissait le modèle morphologiquement. Après, il saisissait ce qui se dégage du modèle.
Ouais.
Et après, il mettait une part de lui-même. C'est-à-dire, tout portrait
est un autoportrait.
Est un autoportrait divisé en trois.
Ce qui est vrai.
Je ne sais pas ce que tu en penses
Non, bien sûr, tout portrait est un autoportrait, évidemment. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne se reconnaissent pas, il leur faut du temps pour se reconnaître. Mais là, bon, ce que je fais, ce sont des portraits assez ressemblants, entre guillemets. Mais parfois, par exemple, on parlait d'Aragon. Aragon a été portraituré par Matisse. Et quand il a vu ce que Matisse avait fait, il était proprement scandalisé. Mmh. Et 20 ans après, il a trouvé qu'il commençait à ressembler au portrait qu'en avait fait Matisse.
Tu as travaillé sur des photos.
À partir de photos, oui.
Et la tête que tu fais à Breton n'est pas très avantageuse.
Non, mais c'est parce que je n'aime pas trop André Breton.
C'est pour ça que j'ai fait ça.
Donc c'est ça le filtre de l'autoportrait.
Bien sûr.
Ça passe dans ce que.
Bien sûr.
Ouais.
Et t'as une grande sympathie pour Nouch.
Ah bah évidemment.
Oui, ça
et
se
pour
sent.
Musidora aussi, qui est moins gâté, mais bon, voilà. Musidora.
Mais c'est aussi un triage de vie et de mort, ces portraits. C'est aussi ça, hein, de végétal et de chair. Comme si justement il y avait ce conflit de la vie et de la mort, de la consommation. Mais d'autant plus là où je parle de perdre la chaise.
Puis là en plus, c'est redondant.
C'est très prégnant, ça fait très fort, ça aussi. Oui, bien sûr.
Absolument.
Et c'est entrelacé, hein, c'est pas d'un côté la vie, d'un côté la mort. Mmh. Ça s'entremêle et ça se combat. C'est très fort, ça.
Il nous reste un petit peu de temps. On s'est promis de parler de 2-3 personnages. Oui. Hein petite parenthèse, je vais vous raconter aussi un jour, il y a des années ici, j'étais tout seul dans ce studio, Monique n'était pas là, elle était au jet ski au Cap d'Agde, et le téléphone sonne comme ça, et un type me dit « Je voudrais un tel », je lui dis « Mais qui vous êtes ?» Et il me dit « Je suis Michel Dancel ».
Ah oui.
Et je lui dis, vous avez écrit sur le Père Lachaise, il me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites lundi prochain ? Il me dit rien. Je lui dis, venez. Il est venu le lundi d'après. Mmh. Voilà, donc il avait déjà un âge canonique, un état qui était pas terrible. Hein, donc voilà.
Mais est-ce que ces guides datent des années 80-90 hein, je veux dire, ça remonte.
Donc il y a des gens qui vous sont très sympathiques. Vous avez découvert des gens que vous ne connaissiez pas
Oui, beaucoup. Francis Bouvet, notamment, alors qui est rentré très jeune dans le surréalisme, qu'il a quitté également jeune, qui était éditeur. Donc, ça, personne ne savait qu'il était au Père Lachaise. Hein. Il y a des gens comme ça qui sont, parce qu'en fait, il y a des guides officiels, il y a des spécialistes. Je savais pas non plus que Jacques Baron était au Père Lachaise. Je l'ai su un peu par hasard, par un coup de bol comme ça.
Vous saviez que Jean Rollin y était?
Oui, tout à fait. Oui,
bien et faut dire où il est, Jean Rollin.
Dans le quartier des Généraux, en fait.
C'est génial. Tu vois qui est Jean Rollin.
Absolument,
hein.
oui.
cinéaste fantastique, cinéaste de porno. Et quand tu cherches sa femme...
Attends, j'ai vu tous les films.
Oui. Sa femme a réussi à le foutre dans, dans la tombe d'un maréchal ou d'un général.
C'est que c'est à côté, en fait. Ça se trouve à côté, mais c'est pas... c'est, en fait, c'est dans le quartier. Il est entouré de généraux, mais c'est, ça c'est un chaos familial.
Il est dans le quartier de Napoléon.
Oui, tout à fait. Voilà. Et, comme, le Père Lachaise, c'est aussi le cimetière napoléonien. D'ailleurs, on peut voir beaucoup de généraux. On reconnaît également certains symboles maçonniques, puisque la plupart des généraux de Napoléon étaient francs-maçons, hein, je veux dire, donc des pyramides, des mains qui se croisent, etc. Donc c'est dans ce quartier-là, tout à fait, tout à fait. Et il y a la fameuse rose de fer qui est tombée, qui est sur sa tombe d'ailleurs, et son fils qui est mort prématurément, apparemment dans des conditions tragiques.
Avant de raconter deux personnages dont vous voulez parler,
Jacques-André Boiffard et Max Maurice.
Et moi, j'ai parlé rapidement de Théodore Frankel.
Oui.
Théodore Frankel était un condisciple de Breton de lycée. Il est dans l'aventure d'Ada. Il va suivre la révolution. Il est juif d'ailleurs. Il va suivre la révolution russe, etc. Et il va toujours être du côté de la résistance et tout. À la fin de sa vie, il est malade. Son frère est médecin. Il demande à être euthanasié. Son frère l'euthanasie, comme etc. Et comme il a été dans le mouvement d'Ada, c'est-à-dire le mouvement de la négation, il va demander d'être à Thiers, au cimetière de Thiers, mis dans la fosse commune.
Oui,
ça, c'est la cohérence totale.
C'est très étrange parce que, le cimetière de Thiers est très. C'est sans doute le cimetière le plus. Le plus sombre, mais très intéressant. Il y a pas mal de surréalistes, d'ailleurs. Pas très connus. Il y a Gisèle Pracinos. Il y a ce médecin qui était l'ami de Breton. Frankel était médecin également.
Oui,
dont le nom m'échappe. Qui était spécialiste d'Haïti.
Oui, je vois ce que c'est.
Ouais, voilà.
Bon, bref.
Et voilà.
Mais je veux dire que la cohérence de Théodore Frankel est superbe. Commencer d'Adaïs pour finir de la fosse commune, c'est très bien.
Il y a le livre de Gérard Guégan qui lui est consacré. Mais il y a Oui, tout à fait.
Oui, lisez-le, Un éclair dans la nuit, Gérard Guégan, et c'est très bien. Petite parenthèse, lorsque j'ai ce livre-là, je l'ai découvert, et j'ai tombé sur l'attaché de presse. Je lui dis, on peut avoir Gérard Guégan. Elle me dit, oui, mais on ne sait pas s'il est mort.
Si, il est bien vivant, enfin.
Il nous reste un peu. Alors, il y en a deux, oui, qui vous intéressent, c'est Boiffard.
Alors, Boiffard et Max Maurice, donc deux acteurs secondaires, mais comme, en fait, quand on regarde bien du grand public, il y a très peu de surréalistes qui sont vraiment connus, je veux dire, du grand public. Il y a Dali, évidemment. Bon, alors après, les personnages, alors il y aurait beaucoup à en dire, mais enfin, c'est quand même un acteur central. Magritte, vraiment du grand public. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un merchandising avec des swatchs, des montres Dali, des montres, etc. Mmh. Ça, c'est hallucinant. Pour le reste, bon, peut-être quand même Buñuel en tant que cinéaste. Breton, mais Breton n'est guère lu finalement du grand public. C'est
une
quand même.
Petite parenthèse, pour une seule chose aussi, Breton est très difficile à lire.
Ah oui, bien sûr.
Si, à part Nadja, qui coule comme ça, si on voit la structure syntaxique de Breton, c'est un drôle de boulot. Hein.
Mais y compris ses poèmes. Alors oui, je voulais parler de Max Maurice et de Jacques-André Boiffard qui ont lien direct avec Breton, puisque. Alors Jacques-André Boiffard, qui est le photographe d'ailleurs de Nadja, qui a été exclu par Breton suite à une histoire par rapport au peintre Robert Mattheim. Il y a une histoire par rapport à Oscar Dominguez et Archil Gorky. Mais là je ne m'en rappelle plus, mais c'est un prétexte un peu fallacieux.
Il n'y a pas une histoire de femme dedans.
Si, c'est ça. C'est-à-dire qu'Archil Gorky s'est suicidé.
Couché avec sa femme.
Voilà.
Ça arrive, M. Koda, vous savez.
Je ne savais pas.
Qui a précipité le suicide d'Archil Gorky. Qui était déjà dépressif, je veux dire. Et en fait, des gens dont Boiffard ont pris la défense du peintre, je crois que c'est Dominguez, et Breton l'a mal pris. Enfin bon, mais on se faisait exclure facilement, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'aller chercher loin. Et donc, Maurice et Boiffard, qui étaient amis d'enfance, ont tous les deux été exclus par Breton au même moment.
Le médecin, c'est Pierre Mabille ?
Pierre Mabille, tout à fait. Voilà. Mais là aussi, il faut vraiment le savoir parce que c'est. Mais la tombe est en bon état, par contre. Et il est indiqué d'ailleurs sa qualité de docteur. Donc, Boiffard et Maurice ont été amoureux de la même femme, qui n'est autre que Simone Kahn. Donc, Simone Breton est la première femme d'André Breton, qu'il a copieusement cocufié d'ailleurs.
Et qui a coquifié l'autre?
Les deux.
Les deux, c'est ça.
J'y viens. Mais d'abord Breton. Breton a initié le mouvement, hein, c'est-à-dire pas seulement avec Nadja, donc Léona Delcourt, mais même avec d'autres femmes.
Breton qui se voulait monogame. Hein.
Oui, mais alors dans les faits.
D'accord. Et puisque moi j'ai fait l'émission il n'y a pas longtemps sur Nadja, le fameux passage où il passe la nuit avec Nadja à Saint-Germain, il l'a gommé dans la réédition.
Exactement,
hein.
Ouais.
Enfin, toujours. C'est pas vous qui feriez ça, monsieur Colin. Hein.
Elle a mal fini, il n'a jamais aidé, la pauvre.
Rien. Non. J'ai fait. J'ai fait deux émissions dessus, c'est horrible.
C'est horrible, oui, je sais.
La fin de Nadja dans un asile, dans la mer.
Puis c'était l'époque du ce qu'on appelle le génocide. Vichy, en fait, donnait plus à manger aux fous, littéralement. Donc il y a beaucoup qui sont morts de faim ou d'épuisement. Et donc, enfin, Boiffard a été souffrait d'un amour non partagé, donc pour Simone Kahn, qui le trouvait sympathique, mais qui n'éprouvait rien pour lui. Elle était elle-même amoureuse d'un autre surréaliste qui était Marcel Nol. Alors, c'est très compliqué, hein, je veux dire, mais ces jeunes gens avaient 20-25 ans, oui, donc évidemment. Donc il a jamais réussi à avoir une aventure avec Simone Kahn. Et Max Moriz, en fait, Breton l'avait nommé pour être un peu le chaperon de sa femme Simone Kahn, c'est-à-dire de la surveiller plus ou moins, parce qu'il voulait bien avoir des aventures parallèles, mais évidemment c'est souvent à sens unique, c'est-à-dire voilà,
c'est souvent comme ça. Ouais.
C'est souvent comme ça, et finalement Max Moriz, qui était quand même un assez bel homme, très élégant, etc., un peu dandy, qui faisait pas grand-chose d'ailleurs, qui est plus ou moins de la rente familiale, son père étant juge de paix, mais d'un milieu très bourgeois, a fini évidemment par avoir une aventure prolongée avec Simone Kahn, qui se vengeait d'ailleurs d'André Breton.
En parlant vulgairement, Étienne, dans les tantôt l'histoire du surréalisme, il se refile les femmes, hein.
Oui.
À commencer par Gala Éluard, par
Éluard. Même Picasso la refuse. Picasso la refuse.
C'est un jeu de chaise musicale.
Oui,
hein,
oui, c'est ça.
Oui, bah, comme, enfin, je veux dire, dans le milieu littéraire, même actuel ou autre artistique,
non,
en soi,
plus.
Bah, ce genre d'histoire, enfin,
non, ça n'existe plus, ça. Tiens,
on
connaît pas ça.
Je vais dire quelque chose qui n'a aucun rapport maintenant.
Allez-y, c'est pas la première fois.
Bah, c'est pas grave, mais c'est grave, j'assume pleinement. J'ai vu là dernièrement, j'ai mis en regard une photo de Breton à la fin de sa vie et une photo de Zara. Ça va réfléchir, à la fin de sa vie. Et Zara, c'est vraiment le visage d'un homme accompli, qui a réalisé sa vie et son chemin, cohérent avec lui-même, avec ses engagements, même s'il se trompait, assumant ses erreurs, etc. Et c'est une photo vraiment de quelques jours avant sa mort. Le visage est magnifique, une belle évolution.
Et
vraiment,
Breton.
Et il est ravagé à la fin de sa vie.
Qui?
Breton.
Oui.
Il est ravagé, dévasté.
À Belgance Empire.
Oui, c'est...
Dévasté, il est complètement dévasté, Breton.
Bah, n'est-ce pas? Il est en mauvaise santé.
Mais le visage qui part dans tous les sens. Qui part dans tous les sens. Le regard traqué, enfin...
Mais ça, c'est très bien pour une phrase que vous racontez. Quand on regarde...
On m'interrogera qu'à la fin.
Quand on regarde... En 1959, il y a une exposition sur Aïs International. Et il y a un gros plan de Breton. Et on voit sa tête, il est paumé. Il est paumé, c'est-à-dire, je suis sûr qu'il a la mélancolie, la nostalgie des folles heures.
Mais c'est
quoi.
Ça.
C'est ce qu'on disait en 1945.
D'où les paradoxes et les contradictions, hein, justement.
Après-guerre,
il est sur des sables mouvants.
Il est has-been. Alors, il y a encore des gens qui vont le voir, notamment à Saint-Cyr-la-Popie, parce que c'est un peu comme Victor Hugo, quoi. C'est le prophète, quoi, le mage. Les gens qui allaient voir Victor Hugo à Guernesey, Breton, on allait quand même le voir, parce que c'est quand même un monument. Mais évidemment qu'il s'est fait damer le pion par Aragon et Luard. Parce qu'eux sont restés en France, ont résisté,
Hugo était resté vert, sexuellement.
Enfin, oui, c'est ça.
Il recevait beaucoup de jeunes femmes à Guernesey.
Il était vert.
C'était un beau...
Par rapport à ce que tu dis, avant qu'on va se quitter après, j'ai une théorie qui est fausse, etc. Je pense que Breton est tellement paumé, à un moment donné, comme ça, il va se tourner vers André Ardelais, qui est magnifique. Tu parles d'Ardelais. Ardelais, c'est magnifique. Mm. C'est magnifique, mais ce n'est pas l'idée surréaliste. C'était
non,
mieux.
C'est autre chose.
Il va se tourner vers Léo Ferré.
Il va y avoir
une réelle amitié, mais qui va foirer, quoi. Il a besoin de quelque chose.
C'est mal fini, oui.
Voilà, mais oui, c'est ça, bien
avec
sûr.
Avec Léo Ferré, oui.
Tandis que Toto, c'était Victor. Il est vert. Hein. Il y a sa femme, il y a sa maîtresse, il y a Juliette.
Il faisait de la gymnastique tous les matins, entièrement nu sur son balcon.
Il est beau.
Beaucoup de gens assistaient.
Bon. Bon, c'était un plaisir de vous avoir. On a eu très chaud. Hein. Tu as été très bien, Joseph. Très, très bien.
Je voudrais rajouter, non, puisque Mitra est une belle-mère, je voudrais rajouter le nom de Nora Mitrani,
ah, oui,
qui est à Bagneux.
Oui, cimetière parisien de Bagneux.
Et donc, comme c'est un personnage important dans l'écriture d'anagramme, oui, belle-mère a transmis ça à Nick Azurne. Donc, les anagrammes et Joe Bousquet, Nora Mitrani.
Qui a été l'amant de Julien Gracq également.
Oui, qui est resté avec Julien Gracq jusqu'à la fin.
Ouais. Qui a été l'amant de Julien Gracq.
Julien Gracq. Oui. Oui. Le, qui a, le oui, petit qui a exhumé un texte de. Le petit Patrice.
Oui, 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 Patrice.
Qui était là, tu te souviens, à l'atelier.
Oui, oui.
Qui a exhumé un texte de Nora Mitrani. Tu connais bien, oui.
Bon, monsieur Coda, c'était un plaisir de vous avoir.
Pas pareillement.
Je pense qu'on va se revoir dans l'existence.
C'est possible.
Oh, voilà. Étienne Ruot, bah, oui, bravo.
Ben, merci.
Pour Père Lachaise Surréaliste et édition.
Complicité.
Complicité, voilà. Ça se trouve. Bah, et puis merci Monique, merci Monique. Voilà.
Merci Monique.
On s'est bien tenu. Même certaines se sont moins bien tenues que d'autres.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
Merci, Julien.
Time is money. Avion, fusée, métro, taxi. Y'a plus de repos, y'a plus de répit. Le temps d'aimer, homme, tu rêves. Telle est la loi, cours ou bien crève. Time is money. Et le soleil, faudra le dresser. Il veut tout le temps aller se coucher. Terre d'enfer, sois donc maudite si tu ne veux pas tourner plus vite. Time is money. Moi je suis prudent, et puis je n'aime pas les boniments. Y'a pas de marchand qui vend du temps. Mettre sa joie dans une tirelire, la changer pour des bouts de papier, perdre sa vie pour la gagner, ça me fait sourire. Moi j'ai très faim et je suis gourmand, je veux tout goûter mais je vais lentement. J'écoute, je regarde et je respire, je ramasse comme ça des tas de souvenirs et tout le bonheur que je peux cueillir pour quand viendra le moment de partir. Time is money. Comprenez bien, tu vends le temps, il reste monnaie, c'est de l'argent. Les assassins ont trop à faire, on fait la queue devant les cimetières. Time is money. Encore plus vite, bande de martyrs, vous n'en finissez plus de mourir. Un seul tombeau, vive la technique. C'est pas la peine qu'on vous explique. Time is money. Moi j'ai le temps, et lorsque viendra le moment, ça se passera tout simplement avec la merveilleuse escorte de tous les refrains que j'ai chantés, des baisers que l'on m'a donnés et que j'emporte. L'odeur des arbres et des fleurs, toutes les saisons et leurs couleurs. Je franchirai la grande porte. J'ai tant de souvenirs à me raconter. Il y en a pour toute l'éternité. C'est moi le vrai riche. Time is money.
De ci, de là, entre les deux balança. L'un, pour s'endormir, avait le lit du sol pour chevet. L'autre pionçait en flemmard dans le creux chaud d'un plumard. Le gras dit « Mon lit profond, dans quel bon somme mon siphon ?» Le maigre dit « On dort moins, mais on rêve. » L'un et l'autre, ils ont aimé la petite brin de mai, brin de mai, de ci, de là. Entre les deux balança, brin de mai, de ci, de là. Entre les deux balança. Le gras dit, regarde un peu, quel grand pot bout sous mon feu. Le maigre riposta, oui, mais pas de grillon chez lui. Viens avec moi, dit le gras, tout ce que j'ai, tu l'auras. Le maigre dit, sache bien qu'avec moi, tu n'auras rien. L'un et l'autre, ils ont aimé la petite brin de mai de ci, de là, entre les deux balança, brin de mai de ci, de là, entre les deux balança. Avec l'un c'était la paix, la richesse et les respects. Avec l'autre rien de quoi, mais aussi je ne sais quoi. Ce je ne sais quoi pourtant lui sembla seul important. Telle sans plus sa raison de fuir la belle maison. Comme on doit s'ennuyer, pas de grillon au foyer, ajouta tout le restant, c'est beaucoup, mais est-ce tant? Dit encore, c'est mes joyeux, voilà ce qui vaut le mieux, et gaiement par les chemins, des hasards de lendemain, les yeux pleins de papillons, a suivi l'homme au grillon, les yeux pleins de papillons, a suivi l'homme au grillon, a suivi l'homme au grillon, a suivi l'homme au grillon.
Elle est belle ton usine, elle tourne à plein régime, quelle que soit la saison, quel que soit le régime, ça va te coûter des sous. Pour l'éthique tu repasseras, mais c'est rien qu'un petit coup de calibre dans le contrat. C'est quand même pas une guerre qui va tout arrêter, te priver de désert et de loi du marché. Toi t'as trouvé la recette et au fond tu t'en tapes si l'on coupe la tête. Chez toi vis moins longtemps qu'un papillon blessé. À ce désert ne sera jamais aussi aride au fond que tes yeux de requin et ton cœur de patron. Elle est belle ton usine, elle tourne à plein régime, t'assures la livraison, tu mériterais une prime. En matière de morale t'auras le Nobel, crois-moi. Cherche ton âme, le diable a ton contrat. Tu seras peut-être condamné. Après un vrai procès, on n'est pas à l'abri d'un juge honnête qui sait. Même si après la guerre, quand faudra reconstruire, je sais qu'un autre que toi ne se gênera pas pour dire. Elle est belle mon usine, elle tourne à plein régime, quelles que soient les raisons, elles sont toutes légitimes. Ça m'a coûté des sous pour l'éthique, désolé, mais avoué pour le coup, c'est du béton armé.
Rue Sainte-Catherine, une taverne triste, mais pas de la tristesse pour touristes. De la tristesse à la lumière qui rentre par les vitres sales, qui joue entre les verres de bière et qui colle sur votre table, qui coule des visages gris de tous les gars qui sont assis. Ceux qui traversent les quartiers de l'Est dans leur voiture climatisée, aseptisée, n'ont pas le temps de voir ceux qui restent, ceux qui restent. Dehors il y a de gros gaillards qui marchent en faisant trembler leurs lards, des Italiens qui parlent encore d'une autre lointaine Amérique où ils pourront trouver de l'or et qui pour le moment comptent leur fric. Le père la montagne qui passe sous d'hier soir, sous de guerre lasse. Ceux qui traversent les quartiers de l'Est dans leur voiture climatisée, aseptisée, n'ont pas le temps de voir ceux qui restent, ceux qui restent. Rue Sainte-Catherine, la mère cotée qui tape son homme à coups de souliers. Les vieux assis sur les perrons qui regarde passer les avions, la mafia qui rôde quelque part dans les journaux, la vie des stars et la misère par-dessus tout à Montréal en ce mois d'août. Ceux qui traversent les quartiers de l'Est dans leur voiture climatisée, aseptisée, n'ont pas le temps de voir ceux qui restent, ceux qui restent.
J'en appelle à la mort, je l'attends sans frayeur, je ne tiens plus à la vie, je cherche un fossoyeur qui aurait une tombe à vendre à n'importe quel prix. J'ai surpris ma maîtresse au bras de son mari. Ma maîtresse, la traîtresse. Je croyais tenir l'amour au bout de mon harpon. Mon petit drapeau flottait au cœur de Madame Dupont. Mais tout est consommé hier soir au coin d'un bois. J'ai surpris ma maîtresse avec son mari poids. Ma maîtresse, la traîtresse. Trouverais-je les noms, trouverais-je les mots pour noter d'infamie cet enfant de chameau qui a choisi son époux pour tromper son amant, qui a conduit l'adultère à son point culminant. Ma maîtresse, est-ce la traîtresse? Est-ce? Où donc avais-je les yeux? Quoi donc avais-je dedans pour pas m'être aperçu depuis un certain temps que quand elle m'embrassait, elle semblait moins goulue et faisait des enfants qui ne me ressemblaient plus. Ma maîtresse, est-ce la traîtresse? Et pour bien m'enfoncer la corne dans le cœur par un raffinement satanique moqueur, la perfide à voix haute a dit à mon endroit, le plus cornardé n'est point celui qu'on croit. Ma maîtresse, la traîtresse.
j'ai surpris les Dupont, ce couple de marauds, en train de recommencer leur hymen à zéro. J'ai surpris ma maîtresse, équivoque, ambiguë, en train d'intervertir l'ordre de ses cocus. Ma maîtresse, la traîtresse.
Oh, ça chauffe un petit peu le coin. C'est un grand, grand, grand café qu'on a là ce soir.
Café, vous êtes entré par hasard, tout ébloui par les lumières du boulevard. Bien installé devant la grande table, vous aviez bu, quelle soif indomptable. De beaux visages fardés, vous nous disiez bonsoir, et la caissière se levait pour mieux vous voir. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets, beaucoup d'effets au grand café.
Comme on croyait que vous étiez voyageur, vous avez dit des histoires d'un ton blagueur. Bien installé devant la grande table, on écoutait cet homme intarissable. Tous les garçons jonglaient avec Paris Soir, et la caissière pleurait au fond de son tiroir. Elle vous aimait, elle les aurait griffés, tous ces gueulards, ces assoiffés du grand café.
Par terre on avait mis de la sciure de bois pour que les cracheurs crachassent comme il se doit. Bien installé devant la grande table, vous invitiez des ducs des connétables. Quand on vous présenta soudain l'addition, vous avez déclaré: moi j'ai pas un rond. Cette phrase-là produit un gros effet, on confisqua tous vos effets. Vous étiez fait au bon café.
Depuis bientôt 60 ans, c'est vous chasseurs, c'est vous le commis restaurant. Vous essuyez toujours la grande table, c'est pour payer cette soirée lamentable. Ah, vous eussiez mieux fait de rester ailleurs que d'entrer dans ce café plein de manieurs. Vous étiez beau, le temps vous a défait, les mythes commencent à vous bouffer. Au grand café, au grand café.
Ah, merci, on vous retrouve enfin.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Extrait du célèbre opéra La vie quotidienne. Voici l'air fameux entre tous, l'air de la bêtise.
Et tant de prisonniers pour tisser de tes mains tant de malentendus et faire croire aux crétins que nous sommes vaincus pour fleurir notre vie de bas.
grâce aux révérences de mesquines envies, de noble intolérance, de mesquines envies, de noble intolérance, de mesquines envies, de noble intolérance. Mère de nos femmes fatales, mère des mariages de raison, mère des filles à succursales, princesse pâle du frison, salut à toi, dame bêtise. Toi dont le règne est méconnu, salut à toi, dame bêtise. Mais dis-moi comment tu pour que point l'on ne voit le sourire entendu qui fera de vous et moi de très nobles cocus, pour nous faire oublier que les putains, les vrais, sont celles qui font payer, pas avant mais après, pour qu'il puisse m'arriver de croiser certains soirs ton regard familier au fond de mon miroir, ton regard familier au fond de mon miroir, ton regard familier au fond de mon miroir.
Je me fonds dans les églises pour mendier un peu de paix. Je prie dans les salles d'attente avant d'errer sur les quais. Celui dont j'ai fait rencontre dans tes boyaux engorgés, j'ai pris toute sa fatigue, un peu de plomb sous ses pieds. Sais-tu qu'il est difficile maintenant de porter la terre, chaque jour un peu plus là, d'aborder le millénaire.
Laisse-nous seulement entrevoir la bonne combinaison, ne nous laisse pas nous éteindre.
Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. On est lundi, il est 16h, c'est l'heure de Trou Noir.
Voilà, bonjour tout le monde pour cette quatrième et dernière journée des Reclusiennes édition 2026. J'ai le plaisir d'accueillir cette table ronde autour des mobilisations citoyennes sur les grands projets. Le thème regroupe deux collectifs, dont un qui s'appelle Ni ici ni ailleurs et qui n'est pas là. Voilà, il s'échappe. Donc d'après le programme, hein, c'est que vous puissiez, voilà, vous voyez, j'ai envie de vous réveiller un peu, ça va. Voilà, et nous avons aussi une intervention autour de une personne, hein, autour d'un roman, on va dire ça comme ça. La modalité de fonctionnement, on va la faire le plus simplement du monde. C'est-à-dire qu'on va faire un premier tour de table, que chaque intervenant ait la possibilité de se présenter, d'expliquer le sujet, le propos qui leur tient à cœur et pour lequel ils sont ici. Et puis ensuite, on laissera chacune et chacun développer ce thème, leur thème, et de vous donner la parole ensuite. Donc trois interventions. On va respecter aussi l'ordre qui apparaît sur le sur le programme, sauf que ben voilà quoi. Il faudra sauter une ligne, voilà, sans jeu de mots, puisque c'est la ligne grande vitesse. Donc, nous sommes, voilà, sans plus attendre, je laisse Jean-Philippe, qui se situe ici à votre droite, se lancer son sujet, et puis me faire signe pour les images. On a mis quelques images, on vous rassure, hein, c'est des images sélectionnées sur lesquelles on peut s'arrêter, revenir, voilà. Il faudra un peu faire de manipulation, ça ira pas très vite vu que je suis suisse, donc vous me tolérerez les... voilà, c'est au moins en couleur, oui. Jean-Philippe, je t'en prie.
Bonjour, merci aux Récusiennes de m'avoir invité. Alors, je me présente rapidement et surtout, je vous présenter l'association. Moi, je m'appelle Jean-Philippe Crabé, je milite à la CNT, je suis prof et je suis originaire de Vallée d'Aspe. Et j'ai fait partie des gens qui ont milité contre le tunnel routier du Somport. Je tiens à le dire parce qu'aujourd'hui, on essaie de faire autour de cette ligne de chemin de fer qu'on veut nous remettre quelque chose qui serait finalement pour sauver la Vallée d'Aspe des camions. Je rigole bien, mais c'est les mêmes qui nous ont mis les camions qui nous disent ça aujourd'hui. Donc moi j'y étais, et puis il y a certains écolos pro-roussais qui vont dire qu'ils y étaient. Moi j'y étais depuis l'arrachage des bornes de juillet 1991, c'est-à-dire depuis le début. Je les ai vus arriver après, je les ai vus aussi repartir quand la lutte n'était pas encore finie. Sur ce projet-là, j'ai fait ma maîtrise sur le rôle et l'utilisation de la presse dans l'affaire du tunnel du Somport à l'époque, et j'avais dédié ce mémoire à ma grand-mère en étant à ma grand-mère Anna, née à Etzot, en pleine vallée d'Aspe, aspoise de toujours, à qui personne n'a jamais demandé son avis. Donc quand on a monté la lutte contre le tunnel du Somport, contre le tunnel ferroviaire, ce dont je vais vous parler là, une de mes obsessions, j'étais un peu à l'initiative de l'affaire avec les copains de la CNT qui m'ont soutenu, c'est de faire en sorte que ce soit une lutte qui fonctionne en assemblée générale avec de la démocratie directe. Il n'est pas question qu'une seconde fois les riverains, les habitants soient privés de leur pouvoir de décision sur leur avenir. Et peut-être que c'est là-dessus qu'on va parler peut-être aujourd'hui.